Nous poursuivons donc sur l'étude des quatre as. Hier soir, nous avons étudié Ananias et nous nous sommes laissés instruire par sa disponibilité, sa vie de foi, son obéissance, son courage, son humilité, etc. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Barnabas. Dans le Nouveau Testament, bien sûr, à partir du livre des Actes des Apôtres, il est question de cet homme beaucoup plus qu'Ananias. Ananias, nous l'avons dit hier, n'apparaît qu'à deux reprises, en Actes 9 et en Actes 22. Et son nom, Ananias donc, est toujours lié à celui de Saul de Tarse. Tandis que, pour ce qui est de Barnabas, il en est question dans les Actes, il en est question aussi dans quelques épîtres. En tout cas, il en est question une vingtaine de fois dans le Nouveau Testament. Et il serait intéressant que nous commencions par dire ce qu'était cet homme avant sa conversion, en lisant un texte en Actes 4, verset 36. Qui voudrait lire ce texte-là, Actes 4, verset 36. C'est dans ce texte-là que Barnabas apparaît la première fois. 36 et 37.
Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres.
Merci. C'est ainsi que nous prenons le premier contact avec cet homme. Il s'appelait Joseph, avant de s'appeler Barnabas. Il était originaire de Chypre, de l'île de Chypre. C'était donc un juif de la diaspora, c'est-à-dire de la dispersion, mais qui néanmoins semblait servir à Jérusalem. Et il était lévite de surcroît. Le fait qu'il soit mentionné qu'il était lévite manifeste qu'il était juif. Juif de Chypre. Et l'on peut dire que ce texte d'Actes 4, 36 nous le présente dans un premier temps comme ayant été quand même un homme à l'épreuve de la consécration du don. Il vendit un champ et donna le produit de la vente à l'œuvre de Dieu en le déposant aux pieds des apôtres. C'est ainsi qu'on apprend à le connaître dans un premier temps. C'était quand même un acte considérable que celui-là. Il était lévite, et certainement que vous savez que les lévites étaient une sorte de tribu au service du temple. Ils étaient attachés au temple. Et ils servaient, ils aidaient les sacrificateurs dans leur service. Les lévites servaient l'Éternel à plein temps, comme les sacrificateurs. Et pour Joseph, remettre ce champ, le vendre, pour en donner aux apôtres le produit de la vente, représentait un acte considérable, manifestait qu'il avait absolument compris que l'Ancien Testament s'était fini, Surtout que les propriétés des Lévites étaient des propriétés inaliénables. On leur avait donné des villes, en même temps que leurs banlieues. Tout ceci est, par exemple, pour ceux qui étudient ces questions, en Josué 21, en Nombre 18. Et les Lévites n'avaient pas le droit de disposer ainsi de ce qu'on leur avait donné. Et ceci relevait d'un commandement de Moïse, d'ordonnance de Moïse, qui les tenait directement de Dieu. Voilà donc cet homme, Joseph, qui bouscule ces ordonnances de l'Ancien Testament et qui manifeste par là qu'il a compris qu'une ère se terminait et qu'une nouvelle commençait. Parce qu'un Lévite qui prenait comme ça la liberté de vendre une propriété, un bien inaliénable, c'était quand même dangereux. Il pouvait même perdre, je dirais, sa qualité de Lévite, en même temps que sa fonction de Lévite. Ceci manifeste donc que cet homme avait réellement compris qu'une ère se terminait et qu'une nouvelle ère commençait. C'est tout à fait important. Puis d'autre part, pour ce qui est de vendre un champ pour l'œuvre de Dieu, c'est aussi un acte énorme. De ce temps-là, un champ était vraiment une richesse. On était agricole en ce temps-là, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Le monde ne connaissait pas encore la révolution industrielle. Le champ, c'était un bien à honorer, à respecter, à s'en débarrasser comme ça pour en donner le produit de la vente aux apôtres, faisait montre d'une consécration totale. Il avait vraiment tout donné, hein. Il avait vraiment tout donné. On peut dire que recevoir n'a souvent pas besoin de s'apprendre. Recevoir. Envoyer toujours, on accepte, on reçoit, mais donner, hein, quelque chose qui est précieux, eh bien, c'est quand même quelque chose. Il a donné le meilleur. Le champ, à l'époque, c'était ce qu'on pouvait avoir de meilleur. Il a donné son champ pour l'œuvre de Dieu. Et puis, en tant que Lévite, cet homme était bien sûr versé dans la religion, et il devait aussi posséder de solides bases vétérotestamentaire, c'est-à-dire de solide base au niveau de l'ancienne alliance. C'était pas n'importe qui, Barnabas. Il est dit que beaucoup avaient agi de même, avaient vendu leurs champs, leurs propriétés, et en avaient donné aux apôtres le produit de la vente. Pourquoi lui a-t-il été, je dirais, souligné de façon particulière? Certainement parce qu'il était lévite, attaché au temple, certainement connu. Et puis aussi, je pense que cet homme devait être un homme assez impressionnant. Nous allons le voir au fil de l'étude. En tout cas, ce que nous pouvons dire dans un premier temps, c'est qu'il s'agissait d'un homme fort doué. Doué. D'où son nom, Barnabas, son surnom. Et il a tenu ce surnom de Barnabas des apôtres. Ceci est précisé en Acte 14, 12. Plutôt en Acte 4, 36, c'est déjà dit, hein. Je crois que ça doit être dit. Attendez, on va vérifier cela. Voilà, par les apôtres. C'est donc précisé. C'est par les apôtres qu'il a été surnommé. Or, les apôtres, pour l'avoir surnommé ainsi, avaient dû très certainement reconnaître chez lui ce don que révèle ce surnom. Barnabas signifie quoi? Qui le sait? Fils d'exhortation, c'est écrit. Alors, c'est facile de répondre. Fils d'exhortation. Alors, c'était un homme qui avait un don d'exhortation. Mais ceci pourrait être rendu par encouragement aussi. Aussi par consolation. consolation, encouragement, exhortation. Voilà quel était le don de cet homme, fils d'exhortation. À l'Istre, lors du premier voyage missionnaire avec Saul de Tarse, surnommé Paul, nous allons lire les textes en Actes 14, 12, il a reçu un autre surnom. Qui voudrait lire Actes 14 12 et 13.
Il l'appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole.
Et puis le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux, etc. Jupiter, Barnabas, Mercure, Saul de Tarse. Il est intéressant de voir pourquoi on les a surnommés ainsi. Jupiter Barnabas. Jupiter est le grand dieu romain, comme vous le savez, dont le temple était le temple du Capitole. Il était le dieu du feu, Jupiter, le dieu du tonnerre, à la parole de feu. Non, non, c'est la correspondance de Jupiter dans la Grèce, c'est Zeus. Alors, c'est un grand dieu romain. À la parole de feu. Alors, certainement que ce Barnabas devait avoir une prédication de feu. Et il semble aussi qu'il devait être grand, cet homme, puisque Jupiter était un grand dieu, pas un dieu romain, un grand dieu, tandis que Mercure était aussi un dieu romain, mais pas un grand dieu. Vous savez que Saul de Tarse a été surnommé Paul. Vous savez ce que signifie Paul en latin? Petit. Donc, c'était presque David et Goliath qui se promenaient ensemble, ces deux hommes, Barnabas et Saul de Tarse. Ça n'est pas pour rien qu'il a été appelé Jupiter. Il devait être impressionnant, cet homme. Et ça n'est pas pour rien non plus que Saul de Tarse a été appelé Mercure, parce que Mercure, en ce temps-là, était le patron des orateurs. Et en effet, il est précisé dans le texte que c'était lui qui prêchait. Et certainement que Paul était un orateur de première classe. Seulement, ce qui aussi est intéressant de savoir, c'est que, aux yeux des Romains, Jupiter était plus grand que Mercure. Il était plus grand que Mercure. Et ceci pose un problème au niveau de l'équipe Barnabas et Paul. Parce que pour commencer, dans cette première équipe, le patron, c'était Barnabas. Ça, il faut le savoir. Nous allons retrouver cela dans quelques instants. Et puis, presque toutes les fois où il est question de Barnabas, il est question d'exhortation, d'encouragement ou de consolation. Acte 11, 23. Acte 13, 43. Acte 14, 22. Toujours encouragement, exhortation, consolation. Un ministère absolument indispensable dans l'Église. Encourager, exhorter, consoler, c'est aider au relèvement des enfants de Dieu, c'est travailler pour qu'ils se fortifient, c'est aussi les entourer, les protéger. Et il est dit de cet homme, de Barnabas, en Acte 11, 24, qu'il était bon. Un homme bon. Ma Bible traduit par un homme de bien. C'est la même chose. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que la bonté ? La bonté, c'est cette qualité de cœur qui travaille au bien des autres, de manière désintéressée. Et il était bon, Barnabas. Il a donné à Dieu le produit de la vente de son champ, sans rien espérer en retour, hein, d'une manière désintéressée. Il a toujours travaillé de cette façon-là. Il a accueilli Paul, en Acte 9, on le verra tout à l'heure, qui rentrait de Damas de manière tout à fait désintéressée, tandis que tous le craignait, se demandait si vraiment il s'était converti. Et puis, on le voit aussi travailler de manière tout à fait désintéressée à Antioche. Il est aussi remarquable de constater que, en latin, les termes « bon » et « bête » ont même racine. « Bête », dire peut-être sans intelligence. D'ailleurs, « bon » et « bête »,« benet » en latin, ont même racine. Parce que il arrive souvent qu'on dise de quelqu'un qui est trop bon qu'il en arrive à être bête. Non ? Vous êtes d'accord ? Or, il est vrai que la bonté, souvent, nous fait passer pour des gens tout à fait poires, en quelque sorte, aux yeux du monde. Le monde ne comprenant pas pourquoi cette bonté faite de générosité, faite de charité, faite d'altruisme aussi, le monde ne comprend pas ces choses. Le monde qui est dominé par des notions de profit constamment, d'intérêt, de gain, c'est ça le monde, hein. On ne travaille pas pour rien. Hein, et quand on donne, on attend de recevoir en retour. Vous êtes d'accord ? C'est sur ces bases-là que notre société est bâtie. Tandis que la société de Dieu, elle est bâtie sur la bonté. Il est dit que Dieu est bon. Et que même Dieu est le seul qui soit vraiment bon. Pourquoi ? Parce que Dieu n'attend pas en retour. Dieu est bon, il est généreux. Il s'est donné, il travaille au bien des hommes qu'il a créés de manière désintéressée. Il travaille pour les hommes, mais dans le but du bien des hommes. Il veut le meilleur pour les hommes, non pas pour lui, mais pour les hommes. Et quand on est bon, on travaille aussi de cette manière-là. Et à ce point bon, de manière désintéressée, qu'on peut passer pour bête. D'où précisément cette même racine des mots bon et bête. Tu demanderas à M. Nicolas Nogent, tu verras qu'il te confirmera ça, puisque je tiens cela de lui. Alors, on peut passer pour bête, nous, chrétiens. Hein? Franchement, prenons le cas de Barnabas. Il vend son champ au lieu de le garder. Déjà, il aurait pu rester disciple et puis cultiver son champ. Et être bon chrétien. Et au lieu de profiter de la vente de ce champ, il dépose la somme au pied des apôtres, et puis tout est liquidé. Il est bête, franchement, aux yeux du monde. Il est complètement cinglé. Il n'a pas du tout profité, mais il a tout misé sur la gloire de Dieu, l'avancement de l'Évangile. Il a eu à cœur les intérêts de Dieu, les intérêts du Seigneur. Sa bonté l'a conduit jusque-là. Et le Christ voudrait que nous soyons bons de cœur. Jésus parle de bonté en Luc 6, 45. Il dit que l'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur. Et le Christ a été bon. Animé, j'allais dire, d'une bonté divine, il était la bonté par excellence. C'était donc un homme de bien, prodiguant le bien, aidant évidemment autour de lui ceux qui en avaient besoin. Je disais tout à l'heure qu'il était particulièrement doué parce qu'il était aussi docteur. Acte 11, 26. Il était aussi évangéliste. Verset 24 de ce 11e chapitre des Actes, toujours. Il enseignait. Il faisait partie des prophètes et des docteurs aussi de l'église d'Antioche, Actes 13, 2. Le courage aussi l'a animé de façon toute spéciale. Nous parlions du courage d'Ananias hier, mais le courage de Barnabas a été aussi remarquable. Quand Paul, une fois converti, conduit au Seigneur par Ananias, décida de rejoindre Jérusalem, c'est Barnabas qui l'a accueilli. Tous le craignaient. Tenez, reprenons les textes en acte 9. Ils sont très caractéristique à cet égard. Verset 26. Lorsque Saul de Tarse se rendit à Jérusalem, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient. Tous craignaient Saul de Tarse, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Pourtant, Ananias l'avait reçu. Ananias l'avait conduit à la conversion, vraiment, hein, acte 22, c'est clair. Ananias l'avait baptisé. Ananias l'avait introduit dans le cercle des chrétiens de Damas. Mais à Jérusalem, on se posait toujours la question de savoir si c'était vrai. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, du courage, hein, le conduisit vers les apôtres. Eux-mêmes se demandaient si c'était vrai toute cette histoire. Et leur raconta, c'est Barnabas qui raconta, comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Alors il s'était, ce Barnabas, situé entre Saul de Tarse et les chrétiens de Jérusalem et les apôtres. Heureusement qu'à Jérusalem, il s'était trouvé un homme comme celui-là pour accueillir Barnabas, pour accueillir Saul de Tarse. Parce que, imaginez, Saul de Tarse aurait pu, parce que les Juifs eux, avaient su qu'il s'était converti. D'ailleurs, quelques versets plus loin, on note qu'il a dû quitter Jérusalem parce que les Juifs l'avaient poursuivi à cause de sa conversion. À Jérusalem, les chrétiens n'avaient pas accepté sa conversion. Les Juifs le pourchassaient parce qu'ils avaient entendu dire qu'il s'était converti. Saul s'était retrouvé entre l'enclume et le marteau. Et s'il ne s'était pas trouvé un homme comme Barnabas pour l'accueillir, mais c'était dangereux pour cet homme. Que Dieu donne à l'Église des hommes comme Barnabas, des hommes qui savent accueillir, qui soient accueillants en même temps que courageux. Un ministère d'accueil, hein, Barnabas. Il est écrit, Barnabas l'ayant pris avec lui. Et certainement que ce Barnabas, dans ce premier contact avec Saul de Tarse, a dû remarquer l'envergure de cet homme, de ce Saul de Tarse. Parce que, une fois Saul de Tarse de retour dans sa ville natale, eh bien, Barnabas était allé le chercher là-bas. Une fois Barnabas à Antioche, il était allé voir ce que Saul de Tarse faisait, devenait chez les siens, à Tarse. En acte 11, tout ceci est encore précisé. Un homme donc remarquable que ce Barnabas, un animateur de surcroît. Il était un homme de confiance auquel l'Église de Jérusalem avait confié une mission. Vous savez qu'à Antioche, des Juifs se convertissaient, des païens également. Une œuvre prenait corps dans la ville d'Antioche. Et le bruit de ces événements était arrivé jusqu'aux oreilles des apôtres à Jérusalem. On se posait toutes sortes de questions à propos de ce qui se passait à Antioche. On s'en inquiétait même. Alors, on décida d'envoyer un délégué. Ce délégué-là fut précisément Barnabas. Nous allons lire ces textes. Nous lisons en acte 11 à partir du verset 19. Vous savez, il faut savoir que il y a eu là, tout de suite après la crucifixion, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, un boom absolument fantastique au plan de l'évangélisation. Si nous retrouvions ce dynamisme-là, je crois que la France serait vite évangélisée en même temps que l'Europe. D'abord, je pose la question. Voilà que tout à coup, on parle de Barnabas en acte 4. Illustre inconnu, il est originaire de Chypre. il se convertit. C'est une chose, on ne sait pas d'où il arrive, en tout cas, il est chrétien. On parle d'Ananias ensuite, cet Ananias-là. Il intervient en acte 9. Bon, on ne sait pas d'où il vient, il sort de l'ombre, puis il retourne dans l'ombre. On ne sait pas comment il s'est converti, on ne sait pas comment les choses se sont faites, mais il y a eu une telle explosion de l'évangile que Chypre a été atteint, Antioche de Syrie a été atteinte, Damas a été aussi atteinte. Ce fut absolument extraordinaire, la percée de l'évangile. Je dirais à partir d'acte 8 surtout, mais déjà dès le début. Mais lisons acte 8, plutôt acte 11-9, qui rappelle acte 8. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, entre guillemets, d'acte 8, hein, survenus à l'occasion d'Étienne, ceci donc souligne l'événement, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. On ne sait pas d'où sortent ces gens-là. Des évangélistes venus d'Antioche. Vous êtes... Pardon ?
Vous avez dit 11-9, c'est 11-19.
Oh, excusez, là, je suis fatigué. Vous remarquez que de temps en temps, je déraille. Alors, excusez, je suis censé être au repos. En repos sabbatique. Je viens de faire un enregistrement à long jumeau qui a été pénible pour un télébible. Alors, c'est acte 11-19. Merci de me reprendre. On se demande d'où sortent ces chrétiens, ces évangélistes qui viennent de l'île de Chypre, qui viennent même de Cyrène. La Cyrénaïque, c'est où, ça? L'Afrique du Nord, ça. Alors, tournez vos Bibles à la fin, là, puis regardez un peu une carte. J'espère que c'est mentionné, mais vous verrez. D'ailleurs, Simon de Cyrène était de là. Hein. C'est la Libye. Alors, on se demande, mais vraiment, d'où sortaient ces hommes, ces évangélistes? Alors, on peut aussi faire le rapprochement avec acte 2. Vous savez qu'à acte 2, il y a eu énormément de conversions. La prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte, a atteint des Juifs qui venaient de pas mal de régions sous le ciel et qui se trouvaient à Jérusalem pour la fête. Pierre a prêché de manière extraordinaire et puis là, 3000 personnes... Hein, se sont donnés au Christ, et certainement qu'après la fête de la Pentecôte, beaucoup étaient rentrés chez eux, de Cyrène, de Chypre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut comprendre que tout à coup, des chrétiens arrivent, des évangélistes, d'endroits qui sont là un peu nous surprenant, parce qu'on se demande comment ils ont été atteints, ces endroits précédemment. Alors, voilà donc des évangélistes venus d'Afrique du Nord, de Chypre, pour évangéliser à Antioche. Et Barnabas les rencontre. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. C'est donc lui qui fut chargé d'aller voir sur place ce qui s'y passait. Et lorsque Barnabas fut à Antioche, lorsqu'il fut arrivé là, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il y avait pourtant des païens qui se convertissaient, il s'en réjouit, et il les exhorta, justement, Barnabas, fils d'exhortation, tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Vous savez, il a eu un message remarquable à Antioche. Il a donné un fort coup de main à tous ces évangélistes venus d'ailleurs. Hein. Et Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, justement. Parce que précédemment, Saul s'était rendu à Tarse vers les siens, certainement pour leur rendre le témoignage qu'il s'était converti. Il avait eu à cœur de retrouver un peu les siens. Et l'ayant trouvé, je ne sais pas, Tarse c'était quand même une ville assez importante en ce temps-là, il n'avait ni l'adresse, ni le téléphone, ni les coordonnées en tout cas, de cet ami, de Saul de Tarse, il l'a quand même trouvé. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à comprendre comment Barnabas a pu trouver Paul dans cette ville de Tarse, qui était à l'époque assez importante?
Paul devait témoigner.
Comment?
Paul devait certainement...
Mais Paul devait certainement témoigner de façon terrible, annoncer l'évangile parmi les siens, en même temps que dans la ville de Tarse. Et certainement que Barnabas n'a pas eu de peine à le rencontrer. Il a dû poser la question, est-ce que vous n'avez pas entendu ici un prêcheur annonçant « Ah oui, ce bonhomme-là, il doit être par là-bas », etc. Et comme en ce temps-là, le téléphone arabe marchait très bien, il n'a pas eu de peine à trouver Saul de Tarse. Pourquoi faire? D'abord, pour savoir ce qu'il devenait. C'était un homme qui avait le souci des âmes, un berger, hein, de cœur, Barnabas. Et puis aussi, il avait compris que Saul pouvait l'aider dans un ministère utile à Antioche. Il est donc allé le chercher. Et ensemble, ils commencèrent un travail à Antioche. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Pour commencer, ceux qui se donnaient au Christ étaient appelés comment ? Disciples. Dans un second temps, ces mêmes disciples étaient appelés comment ? Saints. Et nous l'avons dit hier soir, c'est Ananias qui, le premier, a appelé saints les disciples du Christ. Maintenant, les mêmes disciples du Christ sont appelés chrétiens. Mais voyez-vous, je ne pense pas que la décision fut prise à l'intérieur de l'Église. Quand on lit les contemporains du Christ, les personnalités du monde politique, du monde religieux de ce temps-là, eh bien, on s'aperçoit que pour finir, c'était la génération d'alors qui, en regardant aux disciples du Christ, avait cette tendance à les appeler chrétiens, parce qu'attachés au Christ, parce que parlant toujours du Christ. Je ne pense pas que la décision fut prise à l'intérieur de l'Église. On voit d'ailleurs que, en acte 26, on voit qu'Agrippa a dit à l'apôtre « Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ». On appelait chrétiens ceux qui s'étaient attachés au Christ en même temps qu'à sa doctrine. Mais il semble aussi que, très certainement, ce terme-là avait été retenu par l'Église, qu'il sonnait bien. Mais, vous savez, de ce temps-là, être chrétien ne représentait pas du tout ce que représente aujourd'hui la même chose, hein. Être chrétien aujourd'hui, c'est quoi? Vous sortez dans la rue, vous posez la question dans le métro, au travail, on est tous chrétiens. On vous dira même, on nous a fait chrétiens. On n'a rien demandé, on nous a baptisé chrétiens. Je suis baptisé chrétien, je suis chrétien, mais je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Christ, mais je suis quand même chrétien. On se demande jusqu'où ce fut une bonne chose, hein. Au fond, parce que disciple en dit davantage, franchement. Un disciple, c'est autre chose qu'un chrétien. C'est-à-dire aujourd'hui, au niveau de la compréhension des termes, un chrétien, ben, on l'est tous, sans exception. Un jour, un Allemand, qui est aujourd'hui un homme de Dieu remarquable, auteur de plusieurs livres, il y en a peut-être un ici, je ne sais pas, celui qui a écrit « Tempête sur la Bible », dont le nom m'échappe, mais que j'ai rencontré plusieurs fois. Comment ?
Bergman,
oui. Eh bien, la première fois qu'il est allé aux États-Unis, on l'a évangélisé dans la rue. Quelqu'un s'est approché de lui et lui a dit « Voilà, monsieur, est-ce que vous êtes chrétien ?» Il a dit « Oui, je suis chrétien, je n'ai pas besoin de cet acte. » En Allemagne, on est tous chrétiens. Il n'y a pas de non-chrétiens en Allemagne. Alors, l'Américain lui a dit, mais écoutez, attendez, ça veut dire quoi pour vous, chrétien? Mais je suis né dans une famille chrétienne, j'étais baptisé chrétien, et puis je suis luthérien. On est tous chrétiens en Allemagne. Alors, l'Américain a quand même mis les choses au point, et puis s'est rendu compte ensuite qu'il n'était pas du tout chrétien, qu'il n'était que chrétien que de nom. Tandis que quand on parle d'être disciple, c'est tout à fait différent. Disciple parle, je dirais, d'engagement, de discipline, d'adhésion à un maître, à une doctrine. C'est plus fort comme terme. Et quand on parle de saint aussi, je trouve que c'est... Parce que ce terme chrétien a dégénéré dans son sens. Tous sont chrétiens, c'est tout. Croyez que vous l'êtes, puis vous n'avez pas besoin d'autre chose. Et puis c'est à ce même homme qu'on a confié aussi une collecte. Parce qu'après un certain temps à Antioche, et suite à une prophétie d'un certain Agabus, prophète, les chrétiens d'Antioche firent une collecte pour la remettre à Barnabas et à Saul de Tarse, qui partirent pour Jérusalem. Et quand on peut confier de l'argent, surtout en ce temps-là, à des personnes, c'était quelque chose, hein? Parce qu'on pouvait se faire la belle plutôt, en route, en chemin, ni vu ni connu. Hein. Mais cette collecte est arrivée à Jérusalem, aux frères de la Judée, qui connaissaient la famine en même temps que le besoin. Quand on peut confier de l'argent à un chrétien, c'est déjà beaucoup. Et ceci manifeste que cet homme est un homme de confiance. C'était un homme de confiance, ce Barnabas. Et puis, c'était un lanceur d'hommes. Alors là, j'aimerais que nous terminions avec cette idée tellement importante aujourd'hui dans l'Église. Il avait à cœur de lancer des hommes et des hommes de Dieu. Nous disions hier, en terminant l'étude sur Ananias, qu'Ananias a conduit Saul de Tarse au Seigneur. Que Barnabas prit en main ce même Saul de Tarse, il a pris le relais après Ananias. Et qu'ensuite Silas a fait équipe avec ce Saul de Tarse devenu Paul. Barnabas avait vraiment du discernement. Il a vu que ce Saul de Tarse pouvait devenir un homme de Dieu. Il ne semble pas que Barnabas ait rencontré Ananias. Il ne semble pas non plus qu'Ananias ait remis aux chrétiens de Jérusalem une lettre par Saul de Tarse. Absolument pas. Parce qu'Ananias avait reçu la révélation que Saul de Tarse deviendrait un témoin, un apôtre, pour les gentils, les païens, pour les juifs aussi. Mais pas Barnabas. Mais Barnabas avait d'entrée de jeu discerné l'envergure de cet homme et les possibilités, les capacités d'un tel homme. Alors il avait décidé de le lancer. Et la première équipe s'était donc formée à Antioche. Elle était restée un temps à Antioche, Barnabas et Saul. Puis ensuite, cette même équipe est devenue la première équipe missionnaire. Parti d'Antioche avec la recommandation des anciens de cette église, des frères de cette église. Et le chef de l'équipe, eh bien, c'était Barnabas. Barnabas, en acte 13:1, c'est lui qui est cité le premier. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Pour commencer, Barnabas. Parce que c'était vraiment la personnalité la plus en vue. Siméon, aussi appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, et Saul. Saul arrive en dernier, là. Parce que Barnabas avait été le chercher, et puis certainement que Barnabas avait marqué cette église d'Antioche beaucoup plus que Saul de Tarse. Puis ensuite, quand le Saint-Esprit demanda de mettre à part cette première équipe missionnaire, il est écrit ce qui suit, verset 2e, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Barnabas est cité le premier. Puis ensuite, Barnabas est cité le premier constamment dans les textes qui suivent. Verset 4, Barnabas et Saul. Verset 7, Barnabas et Saul. Et plus loin encore, toujours Barnabas et Saul. Puis tout à coup, les choses ont changé. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Verset 43, Paul et Barnabas. Verset 50, Paul et Barnabas. Verset 14, chapitre 14, verset 1, Paul et Barnabas. Il semble que tout à coup, Paul ait dépassé Barnabas, qu'il ait pris la relève et qu'il se soit imposé, j'allais dire, par son autorité, sa maturité, et sa connaissance de Dieu et tout ce qui s'ensuit. Et il semble aussi que Barnabas l'ait tout à fait accepté, que c'est dans ce sens-là qu'il a voulu Paul avec lui pour le lancer, un lanceur d'hommes, puisque le Seigneur précisément trouvait de ces Barnabas dans l'Église qui encourage, ce ministère d'encouragement et d'exhortation a été très bénéfique pour Saul de Tarse, qui a même changé de nom au passage. Tout à coup, il s'est appelé Paul. Certainement pas que c'est Paul qui a Saul de Tarse qui décida de changer son propre nom. Je pense que Barnabas y est pour beaucoup. Mais en tout cas, Paul est maintenant lancé. Pour commencer donc, le chef de la petite équipe, c'était Barnabas. Puis ensuite, il y a eu un renversement de situation, ça a été Paul. Et Barnabas a suivi. Absolument, l'envergure de Paul a été, je dirais, irrésistible, mais je pense que Barnabas l'avait tout à fait accepté. C'est dans ce sens-là qu'il avait voulu Paul avec lui. Je disais un lanceur d'hommes, il en a été de même avec Marc. Marc qui avait accompagné la première équipe, mais qui avait démissionné en route. Vous connaissez peut-être l'histoire. Ce Jean surnommé Marc. Il est écrit par exemple que Marc avait collé à la première équipe en acte 13, mais qu'ensuite il avait décroché pour des raisons peu louables. Alors, cette affaire, cet événement avait mis Paul et Barnabas en difficulté en acte 15. C'est à cause de ce Marc-là que Paul et Barnabas s'étaient accrochés très, très sérieusement à Antioche, au terme du premier voyage missionnaire. Vous pouvez lire ces choses en acte 15, 36, 39. Eh bien, Barnabas a voulu donner une deuxième chance à Marc, un lanceur d'hommes. Et il avait décidé de le prendre avec lui pour l'île de Chypre et engager ainsi un voyage missionnaire. Tandis que Paul ne voulait plus entendre parler de ce Marc qui les avait abandonnés. Ceci est écrit en acte 15, 38, 39. Barnabas donc, un lanceur d'hommes. Et il en faut des lanceurs d'hommes, des hommes qui encouragent, qui exhortent, qui discernent autour d'eux ceux et celles qui ont été vraiment choisis de Dieu pour un ministère. Barnabas était de cela, il avait les yeux ouverts, il regardait autour de lui. Bien sûr que Dieu reste souverain dans la désignation, des serviteurs à venir, mais il emploie des hommes pour lancer des serviteurs. Moïse a lancé des serviteurs de Dieu après lui. Moïse a lancé Josué, et puis Caleb. Et puis il a lancé aussi des chefs, d'autres chefs. l'apôtre Paul annonçait à son tour Timothée, et puis toute l'équipe que l'on sait, qu'il ramassait ici et là, Tite, un grec, et d'autres encore dont les noms sont cités à ce sujet. J'aimerais vous proposer ce livre-là, tout récent, tout nouveau, qui traite justement de ces personnages que nous sommes en train de voir ensemble, mais enfin de manière peut-être plus exhaustive. Il est question de Stéphanas, il n'est pas question d'Ananias, mais enfin on a traité ça hier soir. Il est question de Silas, de Barnabas, d'Onésiphore, il est question d'Aquilas et de Priscille, de Tabitha, il est question de tous ces d'Épaphras, de Tychique, de tous ces personnages des Actes des Apôtres surtout et des Épîtres qui sont un peu dans l'ombre mais qui ont joué un rôle excessivement important. Et je vous le recommande de manière toute particulière. Je viens de recevoir cette quantité que j'ai demandée précisément en Suisse pour faire connaître ce livre à votre disposition pour 12 francs et vous aurez ainsi un souvenir de ces études que nous traitons ensemble. Je ne veux pas faire la pige à Jacqueline, mais ça vient de paraître, c'est tout neuf. C'est écrit par Georges André. Voilà, pour Barnabas, il est question que nous ayons un temps de partage maintenant, parce que je pourrais continuer, mais il est 6h30. On a une nouvelle réunion à 8h. Est-ce que vous auriez des questions à poser sur cet homme qui a été Barnabas? Parce qu'avec lui, nous aurions pu traiter aussi de l'enfantement spirituel de serviteur de Dieu dans toutes les Écritures, mais je crois que ça nous prendrait encore pas mal de temps. Nous pourrions avoir maintenant un partage avant de clore dans quelques minutes, comme nous l'avons eu hier soir. Nous aurions pu aussi rester plus longtemps sur la dispute de Barnabas et de Saul. Oui.
Je voudrais savoir, dans Actes chapitre 13, verset 2.
Actes 13, 2.
De quelle manière le Saint-Esprit dit les témoins à part Barnabas et Saul?
Alors ça, vraiment, je n'étais pas là. Je pense que c'était dans la prière.
C'est marqué au verset 3, après avoir jeûné.
Voilà. Dans la prière, dans le jeûne. Et je pense aussi dans une conviction absolument unanime, qui n'avait fait l'objet d'aucune réserve de la part de ceux qui étaient là. C'est de cette manière-là que Barnabas et Saul ont été mis à part. Il est intéressant, là aussi, on pourrait passer du temps, que ce ne sont pas Barnabas et Saul qui s'étaient carrément offerts de partir et d'accomplir le travail qu'ils ont accompli, mais c'est tout ce qui était là. Ça s'est fait de manière unanime. Et il y a là le schéma à suivre quand on veut devenir serviteur de Dieu. Il y en a trop qui, peut-être, pensent la chose différemment. Et j'en ai vu. Que l'on pourrait exprimer de la manière suivante, qui même me suivent. Moi, j'ai un appel maintenant. Vous me suivez dans l'église ou vous ne me suivez pas, mais moi j'ai un appel. Et ça ne marche pas devant Dieu. Il faut que l'église soit dans le coup. Il faut que l'église envoie. Et en effet, Antioche est resté, je dirais, l'église de base de cette première équipe missionnaire. Et cette première équipe missionnaire compter sur ces chrétiens d'Antioche, sur leurs prières, sur leurs recommandations. Et c'est à Antioche que constamment revenaient ces apôtres, ces serviteurs de Dieu. Donc, pas question de partir, comme on vient de le dire, qui même me suivent. Moi, j'ai un appel, si vous n'en êtes pas tant persuadé, tant pis pour vous. Nous fonçons. On en voit trop qui partent de cette manière-là et qui, pour finir, évidemment, se cassent la figure de façon terrible. Ça peut être très dangereux. Alors maintenant, s'ils ont entendu une voix, ça n'est pas dit. S'ils ont eu une vision, ça n'est pas dit. C'est le Seigneur qui sait. On le saura plus tard, on le questionnera là-haut. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je dirais qu'il y a une certaine fatalité du Seigneur qui emploie des hommes avec une église qui vient de naître. Et il les envoie contre vents et marées parce que ça dispute quand même au verset 39. Il est dit ce sentiment fait assez.
Du chapitre 15, hein, on n'est plus dans le chapitre 13 là, oui. Ce dissentiment fut assez vif, oui.
Pour mettre cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Et puis ça continue en disant, Paul fit choix de Silas, et parti recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises.
Oui.
Autrement dit, il s'en va et continue son ministère.
Oui.
Malgré ce pavé dans sa vie spirituelle.
Parce
que c'est oui. Il dit ce dissentiment fut assez vif.
Oui. C'est le terme paroxysme qui est employé dans le grec ici. C'est-à-dire que la dispute est allée très loin. Elle est allée à son paroxysme. Imaginez Mercure et Jupiter en conflit.
Et on voit quand même que le Seigneur bénit. Est-ce qu'on ne voit pas là aussi une fatalité? Le Seigneur a pris comme ouvrier ses hommes, puis alors, quoi qu'il fasse, c'est bon.
Ah non, absolument pas. C'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Je crois que cette dispute a été voulue de Dieu. Et tout à l'heure, nous allons parler justement de ce témoin silencieux qu'a été Silas, un homme de situation critique, hein, qui a tenu bon. En tout cas, cette bagarre entre Jupiter et Mercure, entre Paul et Barnabas, aurait pu mettre à plat l'Église. Hein. Elle aurait pu mettre à plat des hommes, d'autres hommes qui commençaient de se lever comme Jude, Silas, etc. Mais il faut savoir que, très certainement, Paul et Barnabas se sont arrangés. Et que, pour finir, ils ont compris que l'heure était venue de se scinder, de créer deux équipes pour se multiplier. Ils ne se sont pas séparés à couteau tiré, certainement pas. Ils se sont arrangés parce que Paul a parlé de façon tout à fait convenable et amicale de Barnabas en 1 Corinthiens 9, 6. En Galate, il en a parlé aussi. Il a fait allusion à Barnabas dans de bons termes après la dissension. Ça, c'est une chose. Et puis, à propos de Marc, Paul n'est pas resté sur cet avis qu'il s'était fait de lui. Il avait changé d'avis et puis je pense que Marc s'était aussi amélioré. Par exemple, en 2 Timothée 4, 11, eh bien, il parle de Marc en des termes tout à fait remarquables. À Philémon, verset 24 aussi. Donc, Paul ne s'était pas enfermé dans son opinion à propos de Barnabas, ni dans son opinion à propos de Marc. Il avait changé d'avis, et je pense que l'affaire s'était arrangée entre eux. Mais il faut expliquer cette dissension simplement par le fait que l'heure était venue de créer deux équipes, et que Paul et Barnabas ne l'avaient pas compris. Il y avait eu aussi d'autres difficultés entre eux que soulève Paul aux Galates, au chapitre 2, on le verra ce soir à propos de Silas. Il y avait eu pas mal de problèmes entre Paul et Barnabas à propos de la judaïsation à propos d'être légaliste, de revenir à la loi, etc. Barnabas avait un tout petit peu flanché sous l'influence de Pierre. Il n'est pas dit ici en acte 15 que Pierre soit passé à Antioche, mais en Galates 2, c'est précisé. Alors, Pierre était lui aussi monté à Antioche, et la dispute s'était faite non seulement entre Barnabas et Paul, mais aussi avec Paul, avec Pierre, pardon. Pierre a été dans le coup. Et Silas avait été un peu le témoin silencieux de toute cette dissension. Il avait tenu bon, mais il avait été aussi envoyé par l'église de Jérusalem pour mettre de l'ordre dans cette affaire de judaïsation des païens. Mais on n'entre pas dans la réunion de ce soir à propos de Silas. Voilà, alors on peut dire que les choses se sont bien arrangées par la suite entre Paul et Barnabas. Et à ce point que les frères d'Antioche avaient accepté de recommander à la grâce du Seigneur Paul et Silas pour le deuxième voyage missionnaire. Et peut-être que aussi il y a eu des questions de personnalité, parce que c'était deux géants, il faut dire que c'était deux géants. Et quand dans une équipe il y a deux têtes, ça peut créer des étincelles, ça en a créé, mais je crois que Dieu s'est quand même servi de ces personnalités-là. Je ne crois pas qu'il faille se décourager quand deux serviteurs de Dieu entrent en conflit. Ça s'est déjà passé. Mais l'un et l'autre avaient vraiment pour souci l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu, l'avancement de l'Évangile. Et comme leur cœur était dans de bonnes dispositions dans ce sens, eh bien les choses se sont arrangées. Moi, je suis soufflé de la façon dont Paul fait allusion à Barnabas dans plusieurs textes. Il aurait pu ne plus parler de cet homme. Couper avec lui, il n'a pas du tout fait ça. Il a parlé de Barnabas dans des termes, je le répète, tout à fait élogieux. Il a même recommandé Marc aux Colossiens en disant « Accueillez-le ». Il dit même à Philémon que Marc est avec lui. Alors, il avait donc accepté de reprendre Marc dans l'équipe. Donc les choses s'étaient vraiment arrangées. Ce qu'il ne faut pas, c'est dans une dispute, ça peut nous arriver, nous sommes des hommes de chair et d'eau, hein. Dans une dispute, j'allais dire, rester sur nos positions, nous enfermer dans une opinion définitive, très, très dangereux, mais accepter de se laisser reprendre et surtout faire tout pour être en paix avec tous. Voilà. Je crois que Paul était un homme de paix, Barnabas aussi, Silas aussi, et c'est pourquoi les choses se sont arrangées, et Pierre aussi, parce que Pierre et Paul se sont affrontés, hein, à Antioche, aussi. Et tout cela devant des nouveaux convertis, hein, des païens qui se convertissaient. Ça aurait pu faire un mal considérable à l'Église, mais je crois que parce que c'était des hommes de Dieu, marqués du doigt de Dieu, parce qu'on reconnaissait chez eux l'empreinte du Saint-Esprit, hein, eh bien, on continuait de leur faire confiance. Et ces hommes ont continué d'être employés par Dieu. Alors, pour vous-même, vous pouvez faire une étude pour voir comment, entre Barnabas, Paul et Pierre, les choses se sont vraiment bien arrangées. Il faut savoir que Barnabas a été appelé apôtre, lui aussi. Barnabas. Et Barnabas, acte 14-14, il est appelé apôtre. L'apôtre, les autres n'ont jamais été appelés apôtres. Silas n'a jamais été appelé apôtre. Timothée non plus. Barnabas a été appelé apôtre. Alors, il y avait deux apôtres dans la même équipe. Ça faisait beaucoup. Or, l'apôtre avait aussi non seulement pour mission de lancer l'Église, mais il avait aussi pour tâche de former des serviteurs de Dieu, de nouveaux serviteurs de Dieu. Et c'est de cette manière-là, Paul a pris Silas et l'a lancé, et puis Barnabas a pris Marc et lui a donné une nouvelle chance. Ils ont donc été chacun dans leur vrai rôle, dans leur vraie mission d'apôtre. On ne peut rien leur reprocher, simplement le fait qu'ils ne se soient pas compris, mais que ça s'est bien arrangé. Moi, je trouve que ce genre de choses, d'événements que tu cites, nous fait du bien. On pourrait croire que les problèmes ne sont que dans l'Église de notre génération. Il y en avait eu des problèmes de ce temps-là. Hier, on a parlé d'Ananias, mais on a dit, attention, il ne faut pas le confondre avec l'Ananias d'acte 5, le mari de Saphira. Lui, il n'a pas fait comme Joseph, surnommé Barnabas. Il a aussi vendu une propriété, mais il a mis de côté une certaine somme, laissant croire qu'il avait tout donné. Bon, ça a été une crise quand même. Puis la rigueur du châtiment avait certainement impressionné l'Église. Certains auraient pu dire, ah non, Dieu est quand même trop sévère. Bien non, ça a été accepté. Et il y a eu des crises, acte 6, hein, les Hellénistes contre les Hébreux, comme il y a des crises dans la famille de Dieu, dans l'Église, comme il y en a eu à Nation. J'en ai eu en tout cas, ici, quand j'étais pasteur il y a plusieurs années. Il y a aussi des dissensions, des difficultés souvent dans des familles chrétiennes. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est se coucher sur sa colère. Hein. Voilà. Il ne faut pas se coucher sur sa colère. C'est-à-dire qu'il faut savoir reprendre contact avec ceux avec lesquels on a eu des dissensions, des difficultés. Il faut savoir retrouver la paix avec eux. Il faut savoir capituler sur certaines choses. Ça, c'est difficile. Il faut savoir capituler, hein, sur certaines choses. Accepter que ce qui s'est dit en face, bien, même si c'est pas vrai du commencement à la fin, il y a peut-être quelque chose qui est vrai. C'est ça, la capitulation. Pour faire la paix, il faut aussi reconnaître les ministères et les respecter. Il faut aussi qu'on apprenne à se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ, dans la crainte de Dieu. Et ça, c'est pas facile, on est orgueilleux de nature, hein, l'orgueil est là quand même. Quand on parle du grand Saul de Tarse, de l'apôtre, là, il a eu des problèmes d'orgueil. Hein. D'ailleurs, il a eu une écharde, hein, 2 Corinthiens 11, 22, là, et la suite, pour l'empêcher de se glorifier. Hein. Donc, il se connaissait lui-même. Et certainement qu'il devait avoir tendance, mais qui n'a pas cette tendance, franchement. Un homme de Dieu remarquable des années passées, qui a conduit au Seigneur des milliers d'âmes, a dit qu'il était poursuivi par l'orgueil de façon terrible. C'était terrible, cette inclination chez lui, comme chez tout serviteur et comme chez tout chrétien, de prendre pour soi la gloire qui ne revient qu'à Dieu. Et la seule façon pour Dieu de nous aider à lui laisser la gloire du commencement à la fin, c'est le brisement. Alors il nous tient dans le brisement. On n'aime pas être brisé. Mais quand Dieu nous brise, on remarque que ça n'est plus nous, c'est lui. Parce que nous, on est brisé. Nous, on est capoute. Nous, on est fini. Hein ? L'apôtre a eu une écharde dans sa chair. Il a dû se dire, ah, s'il n'y avait pas cette écharde, on serait encore plus puissant. Alors Dieu a gardé cette écharde dans sa chair pour pouvoir continuer de l'utiliser. Alors Paul en a eu ras-le-bol, hein, il a dit, Seigneur, mais libère-moi, libère-moi. Puis alors, Dieu lui a répondu, écoute, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et parfois moi je râle aussi avec Dieu, parfois j'ai envie de lui dire, et je lui ai dit, Dieu est témoin, je lui ai dit, écoute, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Avec tout ce que j'ai, tout ça, et puis certainement que Gilbert en est aussi là. Enfin, on dit à Dieu, moi j'ai dit à Dieu souvent, j'en ai ras-le-bol. Maintenant, fais de moi un horticulteur, fais de moi un routier, je le suis déjà, fais de moi un homme d'affaires, mais avec toi, j'arrive plus. Hein. J'arrive plus. Mais je dois vous dire que ça se passe bien. Ça se passe bien parce que le Seigneur nous réconforte. Souvent, je quitte la maison comme ça pour une semaine. Vraiment les larmes aux yeux. Hein. Pour plusieurs jours, pour un combat, pour le salut des âmes. Mais je pars pour convaincre les hommes. C'est quand même pas facile pour les conduire à
Ô Christ, je suis fatigué, je laisse une femme fatiguée, je laisse des enfants qui auraient besoin de moi, etc. Et puis, il faut aller ici, il faut aller là, il faut prêcher comme si tout allait bien. Ouh, parfois, vraiment, on dit au Seigneur, écoute, ça suffit, hein. Puis il y a Alain Choix qui prêche. Oh, qu'est-ce qu'il a bien prêché. Alors on vient à lui, merci du message, hein, merci du message. On se dit, mais où est-ce qu'on en est? Mais ils ne savent pas, ils savent pas ce qu'ils disent. Merci du message. Mais s'ils savaient ce qu'on porte comme fardeau, comme larme, comme facture, sur le cœur qui reste sur le bureau pour lesquels on prie, comme... Et quand on monte en chair, on est obligé de dire au Seigneur, maintenant c'est toi. Hein. Parce que si c'est moi, c'est la catastrophe. Puis tout à coup, en chair, le Seigneur nous saisit, et bim, on prêche, et puis tout à coup, ça. On regarde les âmes qui avancent, qui viennent vers nous, on se demande, mais qu'est-ce qui leur prend? Qu'est-ce qu'elles ont? Elles viennent voir. C'est ce qui nous est arrivé, c'est ce qui m'est arrivé samedi dernier, dimanche dernier, j'étais à Vitré. C'est une œuvre pionnière de France Mission. Avec un pionnier d'envergure, certainement, un certain Jean Parc, vous connaissez, et qui a vraiment remué Vitré, mais qui n'a pas pu avoir de salle. Il a fait les réunions chez lui. Et puis, sa salle à manger salon n'a pas pratiquement suffi hein, pour nous recevoir. C'était archi rempli, tous les soirs. Archi rempli. Nous étions plus de 30 personnes, hein, entre 30 et 40 dans la salle à manger salon d'un couple missionnaire. Et en 3 soirs, je suis allé là-bas crevé. En route, j'ai à peine parlé à ma femme, tellement j'étais crevé. Et quand je lui parlais, c'était pour lui dire combien j'étais fatigué au volant de la voiture. Arrivé là-bas, on a dû aller voir des parents, parce qu'il y a des parents qui habitent autour, des parents du côté de Jeanne, de ma femme. Puis ensuite, il fallait prêcher le soir. Puis il fallait prêcher le lendemain. Franchement, je puis vous dire que parfois je n'ai pas envie de prêcher. Je vous le dis franchement. Je suis un des missionnaires de cette église. Vous me soutenez par la prière et je vous en suis très reconnaissant. Mais je puis vous dire que vraiment parfois je n'ai pas envie de me lever. Et avant de prêcher, je dis Seigneur, je n'ai pas envie. Je lui dis, le Seigneur est témoin. Et le Seigneur me dit, vas-y quand même. Et je me souviens de cette parole de l'apôtre. En 1 Corinthiens 9, quand je n'en ai pas le goût, dit-il, ça m'est imposé. Et Dieu me dit, écoute, vas-y quand même, parce qu'il y en a qui ont besoin de moi. Je comprends ta situation, fonce, je me lève, je vais en chair, je prêche l'évangile, et des âmes se convertissent. On a eu 28 décisions dans les 3 soirs à Vitré, dans cette maison. 28. Et une 29e personne vient d'écrire, vient d'envoyer sa carte chez nous et j'ai le renvoyé à Jean-Part. Quand même quelque chose. Mais j'ai... Alors, en revenant, vraiment, on était heureux comme tout. On a béni Dieu. Et à la fin, avant de quitter Jean-Part, on a prié ensemble, on a dit, Seigneur, c'est ta main. C'est vraiment ta main, parce que moi, j'étais une loque, crevée, complètement fatiguée. Et puis voilà, le Seigneur a fait son travail. Donc... Dieu nous tient dans la faiblesse et le brisement pour pouvoir nous employer, afin que toute la gloire lui revienne et que nous ne puissions pas compter sur nous. Hein? Mais absolument pas. Et ça, sans le brisement, nous en sommes incapables. Incapables. Alors merci Seigneur pour le brisement, puisque c'est au travers du brisement que sa puissance agit de façon tellement évidente.